Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Marie Blanc et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Elisabeth Collet. La gourmandise de ce matin, c'est le début du récit Maison hantée de Shirley Jackson, paru en 1959 et considéré par Stephen King comme l'un des plus grands romans fantastiques de ces 100 dernières années. Voici l'extrait présentant la maison hantée. Aucun organisme vivant ne peut connaître longtemps une existence saine dans des conditions de réalité absolue. Les alouettes et les sauterelles elles-mêmes, au dire de certains, ne feraient que rêver. Hill House se dressait toute seule, malsaine, adossée à ses collines. En son sein, les ténèbres. Il y avait 80 ans qu'elle se dressait là et elle y était peut-être encore pour 80. À l'intérieur, les murs étaient toujours debout, les briques toujours jointes, les planchers solides et les portes bien closes. Le silence s'étalait hermétiquement le long des boiseries et des pierres de Hill House et ce qui y déambulait, il déambulait tout seul. Dandy drôlatique du futur, notre apothicaire de l'âme étudie d'abord aux Beaux-Arts de Rouen puis au Studio National des Arts Contemporains du Frénois. Il imagine des programmes OVNI pour la télévision comme le Ben et Bertie Show, réjouissante émission musicale qu'il écrit, réalise et présente avec Bertrand Burgala sur Paris 1ère, et façonne des films à l'absurde poétique et à la fantaisie surréaliste comme Gaz de France qui met en scène un conseiller en communication enfermé dans le sous-sol du Palais de l'Élysée pour trouver comment augmenter la cote de popularité du président de la République qui chante au lieu de répondre aux questions dans les débat. Ou Yves, bientôt sur les écrans, qui montre les démêlés d'un rappeur avec son frigo intelligent. Notre apothicaire invente et bricole des objets variés, clips musicaux, séries d'animation dans l'émission 28 minutes sur Arte, ou critique d'anticipation de films imaginaires dans le magazine Sofilm. Son visage s'imprime parfois sur les pellicules. Il apparaît dans des films signés Sophie Le Tourneur, Nicolas Pariseur, Vincent Mariette ou Thomas Lévillane. Notre homme a des personnalités parallèles. Il se métamorphose parfois en un certain Michel Moisan, sommité du cinéma et ami de Fellini et d'Orson Welles, d'autres fois en l'ancien espoir du cyclisme Pascal Duez, l'auteur d'un blog intitulé « Sport, érotisme ». Mais pour vraiment le cerner, il suffit de savoir que si sa vie faisait l'objet d'un biopic, il voudrait que son rôle soit incarné par un tamanoir. Bonjour Benoît Forgeat.
Bonjour.
Vous qui avez joué Benoît Forgeat dans Bonheur Académie de Kaori Kinoshita et Alain de la Negra, qui se passe dans un séminaire raélien en Croatie, où il est dit que trois choses garantissent le bonheur, le rire, l'orgasme et la méditation. Je vous pose cette première question d'abord, êtes-vous d'accord et quel est votre rapport à la mélancolie ?
Oui, j'ai eu cette chance effectivement de côtoyer les raéliens pendant une dizaine de jours en Croatie. Ouais, c'était une méthode assez simple, hein. Peut-être même un petit peu trop simple, une sorte de carpe diem, un peu le rire, l'orgasme. Et quoi d'autre vous m'avez dit ?
La méditation.
Ah, la méditation, ouais, ouais. Je pratique les trois. Hein. Je pratique les trois comme la plupart des gens.
Enfin, non, pas sûr.
Ah oui ?
Non.
En tout cas, je
connais beaucoup de gens.
Ah oui ?
Oui.
Mais lequel des trois éléments est le plus souvent manquant à votre avis ?
Écoutez, je ne sais pas, Benoît Forgeat, mais vraiment, parlez avec les gens autour de vous, oui, et vous verrez qu'il leur manque souvent un de ces éléments, parfois plusieurs.
C'est vrai. Bon, j'ai pratiqué ou je pratique encore la plupart, les trois. Mais c'est, à vrai dire, pour être tout à fait sincère, Eva, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans ces domaines-là que je vais trouver le remède à la mélancolie. Déjà, la mélancolie, bon, si je vous fais une réponse qui est sans doute souvent faite par vos invités, c'est que c'est pas en soi quelque chose de complètement négatif, hein, puisque je distingue quand même assez nettement la mélancolie du cafard ou même évidemment de l'angoisse. Moi, ce qui me gêne pour travailler, évidemment, c'est l'angoisse. Et puis le blues, quoi, le cafard. Mais la mélancolie, j'en suis très gourmand. Hein. J'en suis très gourmand et je l'éprouve finalement assez peu. Et je me rappelle que quand j'étais collégien, par exemple, je me faisais des festins de mélancolie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je me rappelle vraiment en troisième, je me remémorais avec mélancolie la sixième.
Donc la nostalgie plutôt.
Non, c'était une forme de mélancolie parce que je me rappelais du temps de la sixième qui me semblait très lointain. Et j'y voyais quelque chose enfin, qui me nourrissait, quoi, qui était qui me faisait du bien, c'était bon.
Et alors, Benoît Forgeard, les cafards dont vous parlez, que vous différenciez de la mélancolie, ça, vous avez souvent des accès de cafards ?
Ça peut m'arriver, ouais, ça peut m'arriver. Alors, par exemple, c'est vrai que je pensais à ça. Une fois, on m'avait posé la question, et c'est d'arriver, par exemple, dans une maison qu'on a louée, et puis dans une ville un peu sinistre. Hein. Après, il y a des villes sinistres qui peuvent finalement se révéler ne pas l'être, mais disons... dans une ville un peu sinistre, et de voir qu'il y a un téléviseur et qu'il y a un seul DVD, que c'est celui des visiteurs 2. Ça, par exemple, là c'est le cafard.
Un cafard métaphysique ou un peu moins sur l'échelle des cafards ?
C'est quelque chose qui évoque directement la mort, hein, tout simplement. Hein.
D'accord.
Ouais, ouais.
C'est un peu radical.
Oui, mais c'est ça, parce qu'on se dit à quoi bon, quoi ? À quoi bon ? Et tout de suite, ça nous met face à ça. Ça nous met face à la mort, directement.
Bon alors, restons en vie, juste le temps de l'émission si vous
volontiers,
voulez bien,
ouais.
Benoît Forgeard.
En même temps, ça en jetterait hein, l'un de vos invités
ça,
qui trépasse avant la fin.
Oui.
Mais je veux pas être le premier.
Non, puis je pourrais continuer l'émission comme si de rien n'était en vous imitant aussi la Hitchcock. Bon, le sommaire, vous allez convoquer dans quelques instants Benoît Forgeard, Astrid Gilberto, Barbara Carlotti, un nouvel élève, Catherine Pozzi, Emmanuel Mounier, un site étrange, les propos d'Alain de l'éthanol, une course cycliste et quelques îles juste après le morceau À tes côtés de Malik Djoudi et Étienne Daou dans la playlist France Inter.
Ravi, cher ami. Jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, nos magiques. Des réponses à nos questions, si je suis largué, maintenant je sais. Je pourrais poser ma main sur ton épaule.
À la mélancolie sur France Inter en compagnie de Benoît Forgeard.
Ça fait 3 ans que je suis pas allé chez le coiffeur et je me coupe les cheveux tout seul. Hein. Tu veux que je te dépaissis sur les côtés ?
Tu veux quoi ?
Désépaissis sur les côtés.
Non.
Parce que t'en as besoin. Hein.
Ah, okay.
T'es sûr ?
Non, t'inquiète, c'est bon.
Si tu veux. Tu veux que je te joue un air?
Ouais, vas-y.
Vas-y. C'est quoi ça? Bah, c'est une liste. Je fais ça depuis que je suis au CM2, moi.
Liste de tous les gens qui m'ont dit du mal de moi, qui m'ont tapé, qui m'ont insulté ou qui m'ont volé des trucs.
Ça sert à quoi? Bah, me rappeler.
T'es bizarre.
2015, le nouveau premier long-métrage de Rudy Rosenberg. Benoît Forgeard, vous avez choisi cette comédie qui est beaucoup plus fine que ce à quoi on peut s'attendre et qui est vraiment très drôle. Je l'ai vu deux fois et vraiment, je le recommande à tous les auditeurs.
Oui, bah moi aussi, je l'ai vu récemment, je l'ai vu en VOD, j'avais raté à l'époque de sa sortie, parce que c'était à peu près à la même époque que la sortie de Gaz de France. Et ouais, j'ai été enchanté par ce film, très joli, puis avec des accents aussi un peu mélancoliques pour le coup, l'histoire d'un garçon de 12-13 ans qui arrive dans une classe de quatrième, ouais. Et puis qui essaie de se faire des copains, qui va avoir du mal. Mais tout ça est écrit de façon très jolie, très fine, avec des choses de mise en scène très simples. Et puis surtout une connivence avec de la part de Rudy Rosenberg, le réalisateur, que je connais pas d'ailleurs personnellement, mais une connivence avec les acteurs enfants qui est géniale.
Il y a une grande cruauté aussi dans ce film.
Oui, il en faut pour que les choses soient bonnes. Hein. Une cruauté, ouais, c'est celle des adolescents entre eux, des castes qui s'opèrent dans les écoles, évidemment. Et puis, il y a des passages qui sont formidables, c'est ceux de rire, justement, qui ne sont pas partagés parce qu'on n'a pas les codes.
Les moments de gêne, mais ça, Benoît Forgeard, vous jouez beaucoup avec ces codes dans vos films aussi.
Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour rejeter des gens ni des spectateurs, bien entendu. C'est plus parce que c'est un élément qui me fascine. C'est quand le langage est au service de quelque chose et quand il est au service de l'humour, avec toutes les nuances que ça peut prendre. L'humour peut être quelque chose de féroce, l'humour peut être du côté de l'ordre, hein. L'humour peut être aussi évidemment une force poétique importante, c'est celui que j'essaie de plébisciter.
Dans le nouveau Benoît Forgeard, vous avez choisi la scène qu'on a entendue, c'est le héros qui partage votre prénom, va rendre visite à Joshua, qui est un petit garçon très très drôle, très attachant. Pourquoi cette scène ?
Alors, j'aurais pu en choisir plein d'autres. J'ai choisi celle-ci parce que, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que peut-être elle était la plus radiophonique. Et encore, il y a plusieurs gags visuels dans celle qu'on vient d'entendre, notamment parce que sur la liste dont parle Joshua, il y a inscrit le nom de Benoît, qui se découvre parmi les gens qui l'ont fait du mal, je crois.
Alors je préviens les auditeurs qu'à cause du foisonnement éclectique de cette émission, il n'y aura aucune transition pertinente entre les remèdes.
Bien sûr, c'est pour ça que les gens écoutent cette émission.
Mais c'est pour ça que vous êtes venu.
Bien sûr.
Alors Benoît Forgeard, vous avez choisi comme œuvre d'art un site internet.
Ah oui.
Qui s'appelle imposetonanonymat.com. Il a été créé en 2010. Et je vous laisse décrire le genre de photos qu'on peut découvrir sur ce site.
Oui, alors c'est une... Je ne sais même plus comment je suis arrivé sur ce site.
Vous ne faites pas partie du collectif qui se trouve derrière ?
Non, je ne sais pas qui se trouve derrière. C'est assez mystérieux parce que le site est extrêmement simple, limpide. Il y a marqué ITA, impose ton anonymat. Et ensuite, on voit une galerie de photos qu'on scrolle comme ça. Et alors, c'est pas forcément à mettre sous tous les yeux. Il y a des choses quelquefois un petit peu sordides. C'est pas non plus... On n'est pas dans le trash.
Ça dépend.
On peut l'être, mais disons qu'il n'y a pas une volonté d'effrayer l'internaute ni de l'écœurer. Ça peut arriver, comme peut arriver une mauvaise rencontre dans la vie. Mais surtout, ce que j'aime sur ce site, il est très inspirant pour moi, c'est que c'est la révélation d'un monde surréaliste, mais avec un renouvellement des outils surréalistes. Alors quelquefois, beaucoup d'images semblent venir de l'Europe de l'Est. Je pense qu'il y a une sorte, je sais pas, de... On se permet des libertés, je pense, de ce côté-ci du globe en ce moment. On peut y voir des choses, on peut y voir des échafaudages que les gens ont fait. Il y a beaucoup de choses qui sont à base de do it yourself. Il y a beaucoup de choses qui vont être poétiques parce que quelqu'un a entrepris de faire un échafaudage, je sais pas, avec des bottes en caoutchouc. Et qu'il est perché à 15 mètres de hauteur. C'est le genre de choses qu'on va voir. Et toutes ces images sont authentiques. En tout cas, je serais très surpris que ce soit autrement. Elles ont l'air extrêmement authentiques. Comment est-ce qu'elles se retrouvent là ? C'est la collection, à mon avis, d'œuvres la plus impressionnante aujourd'hui au monde.
Alors, on voit par exemple un bébé faisant office de palais de hockey, des céréales dans une cuvette de toilette.
Alors ça, je n'approuve pas cette vidéo. Enfin, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de ne pas le faire.
Une tortue en jean, des animaux qui fument ou un chien à dentier.
Voilà, alors ça, la tortue en jean, par exemple, c'est assez beau. C'est quelque chose qu'André Breton n'aurait sans doute pas détesté.
Le but de ce collectif, c'est de faire prendre conscience, je les cite, ce sont 8 amis.
J'ignorais qu'il y avait un manifeste.
Un derrière. Collectif Animals, le concept, enfin peut-être que ça se dit Animals, je ne sais pas, de faire prendre conscience aux gens qu'on est vraiment la pire race de l'univers, on est trop cons et en plus on l'affiche.
Ah oui, alors je suis surpris par la négativité de leur manifeste, parce non, que moi au contraire ça me donnait de l'espoir ce site.
Mais peut-être que c'est l'éloge de la bêtise aussi, dans une sorte de... dans un ordre positif.
Bah, moi, j'y voyais quelque chose de poétique. C'est-à-dire que j'y voyais un... Bon, par exemple, c'est vrai que... Mais c'est... je crois que c'est parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime bien une forme de poésie qui est toujours très liée aussi aux aspects les plus gras de l'individu, de l'être humain. Enfin, quand je dis les aspects les plus gras, disons que j'aime bien qu'il y ait quelque chose de très, très humain derrière tout ça, quelque chose qui n'est pas forcément très glorieux, très lumineux, et qui côtoie tout à coup l'invention poétique.
Benoît Fangin, vous vous livrez toujours à cet exercice surréaliste consistant à noter dans une écriture quasi automatique des mini-synopsis chaque jour ?
Alors là, je m'y livre moins parce que c'est vrai que j'ai fait ça pendant longtemps, mais c'est un exercice qui m'a été beaucoup profitable. Ouais. Ça a été un exercice qui était très libérateur pour moi. Parce que ça me permettait de peut-être déjà d'évacuer un grand nombre comme ça de choses qui m'angoissaient, qui me travaillaient. Et puis c'était quelquefois la clé vers ce qui allait devenir un film, pour le pire et pour le meilleur. Wish I could sing it to you, sing it to you. La première chanson qui vous empêche d'être triste, Benoît Fangin, c'est la reprise du titre écrit par Robert Lamm pour son groupe Chicago, Beginnings, par la brésilienne Astrud Gilberto en 1969. Une chanson d'amour. J'ignorais qu'elle était d'amour parce que je parle pas très bien anglais, mais en tout cas, je suis ravi de l'apprendre. Et en plus, c'est une chanson qui est assez longue avec différents passages, mais je défie tout le monde, enfin, je défie chacune et chacun de rester triste en écoutant cette chanson. Je crois que c'est physiquement impossible.
La musique est assez importante pour vous, Benoît Fangin. Vous avez animé avec Bertrand Burgala le Ben et Bertie Show, qui était une émission musicale où vous receviez des groupes et qui étaient ponctués de sketchs. Et puis, dans votre dernier film qui sort sur les écrans mercredi prochain, Yves, c'est donc, on suit le quotidien d'un rappeur qui fait un tube d'abord, qui ensuite est remixé par son frigo intelligent. Et ce tube reste dans la tête. Moi, je l'ai dans la tête depuis une semaine.
Eh bien, à la bonne heure, hein. C'était un peu l'idée, c'était de fabriquer un vrai tube pour que le film ait l'air plus crédible encore. Donc du coup, c'est vrai que par volonté de bien faire, par volonté de faire vrai, je crois qu'on a fait un vrai tube.
Avec Philippe Catherine dans une des versions d'ailleurs.
Ouais, la version clip
du métro
qu'on peut trouver sur YouTube et qui se passe dans le métro. Oui, Philippe fait ce qu'on appelle un featuring, puisque maintenant il est aussi un peu dans le rap game. Donc il était assez naturel que Philippe vienne faire un featuring, un feat comme on dit.
Il a été aussi président de la République chez vous, Benoît.
Oui, il a été président de la République, un président de la République éphémère.
Et mais qui chante toujours la musique.
Oui, qui chantait aussi, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à la musique, oui, qui est... Pour l'instant, je m'en rends compte. Hein. Et à vrai dire, je ne commence jamais un scénario en me disant « je vais parler de musique ». Mais je me rends compte que la musique arrive de partout et c'est sans doute pas un hasard.
Votre autre choix musical anti-spleen, c'est un titre de 2018 composé et interprété par Barbara Carlotti qui était venue partager son univers cosmique dans l'émission et qui a fait la musique d'une bande-annonce que vous avez réalisée, Benoît Fangin, celle du camp d'été 2016 du magazine SoFilm. Le morceau, c'est « Tu peux dormir ». Alors, juste avant qu'on l'écoute, j'aimerais savoir ce qui vous plaît dans ce morceau. Et je tiens à vous préciser quand même que... On a demandé à Barbara Carlotti dans une interview pour Grazia quel film raconte votre vie. Elle a répondu « Je voudrais demander à Benoît Fangin de s'en charger ».
Ah oui, les grands esprits se rencontrent. Non, ce morceau, Il est d'une grande beauté, il figure sur le dernier album de Barbara Carlotti.
Magnétique.
Il me semble, et je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'elle l'a faite à propos de sa grand-mère décédée. Et c'est une chanson d'une immense sérénité, comme ça. Alors, si on peut l'écouter, je pense que c'est une chanson. C'est pareil, elle a des vertus apaisantes, elle a des vertus, je dirais pas que c'est proche de certaines herbes, hein, mais en tout cas, on peut l'écouter et se sentir immédiatement mieux.
Barbara Carlotti, tu peux dormir.
Dans la longueur vague du matin, le temps s'étire calme et soudain.
À la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Benoît Forgeat.
Il y a des gens qui se lèvent avec promptitude quand leur crayon tombe par terre. Il y a des gens qui attendent l'occasion de le ramasser ou ne vont le chercher qu'avec une série de contorsions qui leur donnent l'illusion de ne pas bouger, même si elles sont plus pénibles que l'acte de se lever. Les inactifs se rapprochent de ceux qui fuient le réel, car l'action est le principal moyen de nouer contact avec le réel. Notre première ligne de repli est le langage. Nous substituons le mot à l'action et, ayant prononcé le mot, nous croyons avoir agi, tel ce pédagogue célèbre qui exhortait son élève en train de se noyer.
Vous nous avez indiqué deux penseurs dont les idées sont pour vous des consolations, Benoît Forgeat. Tout d'abord, le fondateur de la revue Esprit, le philosophe Emmanuel Mounier, qu'on entend lors d'une conférence donnée à la Sorbonne en octobre 1948. Comment l'avez-vous découvert?
Je l'ai découvert très récemment et puis je dois avoir l'honnêteté de dire... que je connais pas très bien en fait, mais je suis attiré par sa pensée parce que je crois que c'est ce qu'on appelle plutôt un chrétien de gauche. Alors c'est quelqu'un qui, bon, il est mort assez jeune, mais enfin il avait cette idée quand même d'essayer de remettre la spiritualité au centre des choses et puis d'être dans une forme de d'altruisme actif. C'est ce qui m'intéressait beaucoup. Cet hiver, je sais que j'étais un peu déprimé au moment des manifestations les plus spectaculaires des Gilets jaunes. J'étais un peu triste parce que je me disais vraiment, on se comprend pas quoi dans ce pays. Ça me faisait de la peine. Et je suis allé sur YouTube et je sais pas pourquoi, je suis allé vers Emmanuel Mounier quoi. Et tout à coup, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose là d'un espoir possible.
Quand on lit la vie d'Emmanuel Mounier, on a envie de pleurer. Parce que d'un coup, une foi en l'humanité est possible. C'est l'initiateur du courant de pensée du personnalisme. Et il a un principe moral, c'est qu'une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à son épanouissement. Et dans le cas contraire, elle est mauvaise. C'est très simple. Et l'engagement est très important chez lui aussi.
Oui, c'est ça. Ça m'a indiqué une voie. Hein. Je me suis dit quand même. C'est vrai quand on est artiste, qu'on fait des films, des choses comme ça, on se dit bon bah voilà, on peut pas ne faire que ça. Il faut aller dans le réel un peu. Et puis donc c'est une voie pour moi, pas vraiment pour le moment, mais pour la suite. Donc je reviendrai éventuellement une fois que je le connaîtrai mieux.
Je vous en prie.
Je me suis dit c'est peut-être l'occasion aussi. Finalement, on vient dans les émissions, c'est aussi pour apprendre des choses. Et donc je me suis dit je vais parler d'Emmanuel Mounier. Peut-être que quelqu'un te connaîtra et m'en parlera.
Peut-être. Benoît Fangin, vous avez également trouvé un appui auprès du philosophe Alain et d'un livre qui a changé votre vie, ses propos sur le bonheur paru en 1925, un recueil de 93 réflexions publiées d'abord dans la presse. Il y a une idée qui ressort de ce recueil, c'est que la véritable douleur ne peut être que physique et que la douleur morale ou psychologique n'est qu'une projection finalement.
Ah oui, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. C'est là pour le coup, Alain, quand même, lui, je le connais mieux, je l'ai beaucoup lu. Et c'est vrai qu'il m'a tiré un peu du pétrin quand j'avais 20 ans. Je suis sans doute pas le premier invité à citer ce livre parce que c'est véritablement un manuel pour aller mieux, pour se guérir d'un tas de choses. Et j'ai beaucoup de sympathie aussi pour le fait qu'un philosophe, tout à coup, prenne du temps pour faire un manuel aussi simple, parce qu'en plus, je crois qu'on se moquait un peu de lui à l'époque. Hein. Vraiment, Alain paraissait un petit peu comme un type un peu gentil avec ses conseils. On se moquait de lui, on disait oui, Alain, il dit que bah, si vous voyez que les nuages arrivent, prenez votre parapluie. Mais en fait, déjà, c'est d'une écriture, l'écriture des propos sur le bonheur est remarquable, elle est souvent très poétique. Et puis surtout, il y a cette idée, effectivement, très simple, qu'on peut aller chercher dans des problèmes, dans des mélancolies justement, on peut aller chercher des sources qui peuvent être quelquefois très simples et qu'il faut dénouer. C'est surtout la question de dénouer. Je crois qu'il y a deux articles qui s'appellent, l'un s'appelle Dénouer, l'autre s'appelle Voir au loin, qui sont des choses qui me sont restées pour la vie.
C'est-à-dire, quelle est l'idée principale de ces articles ?
Dans Dénouer, c'est l'idée de se dire, en fait, tout à coup, il y a un symptôme, il y a des pleurs.
Cause.
Et à ces pleurs, en fait, il y a peut-être une aiguille dans le pantalon.
Oui, cela m'avait marqué aussi.
Ouais. Et dans Voir au loin, c'est l'idée bah, tout simplement de voir au loin. C'est-à-dire quand on a des ennuis, hein. En même temps, je dis ça, c'est plus facile de le dire comme ça. Mais quand on a des ennuis, eh bien, il faut voir au loin, prendre tout à coup, imaginer ce qui se passe après les nuages.
Alain disait d'ailleurs, ça me frappe Benoît Forgeard, puisque vous évoquez régulièrement la poésie, et il disait que tout bonheur est poésie essentiellement, et poésie veut dire action.
Ah, c'est très joli.
Et la tristesse pour lui est une maladie.
Pour Alain ?
Oui, c'est physiologique.
Ouais, c'est possible, effectivement. Après, cette idée d'être joyeux malgré tout, c'est vrai qu'il a un petit peu ça, Alain. Il a cette idée, apprendre à sourire, se réveiller le matin avec la banane, qui peuvent être des choses qui, maintenant, avec la modernité, peuvent paraître un petit peu agaçantes, parce que ça a pris des formes un peu... si c'était chez lui quelque chose, à mon avis, tout à fait original, et maintenant, c'est devenu peut-être un courant dominant. Donc, mais il n'en demeure pas moins que je suis quand même dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme de méthode Coué dans le bonheur. Il faut d'abord le vouloir.
Le décider, un volontarisme.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
J'ai bien connu Catherine Pozzi et la tient pour la femme la plus remarquable, la plus complète, au point de vue des dons de l'esprit qu'il m'ait été donné de rencontrer. Mathématicienne, intéressée à la biologie. Musicienne, avide de techniques nouvelles. Catherine, fille du professeur Pozzi. Était vers 1928-29, maigre, longue, brûlante de fièvre et de génie, et sans qu'on le sache alors, un poète singulier, unique, dans la lignée de Louise Labbé qu'elle admirait, dont elle a repris certains thèmes.
La Duchesse de la Rochefoucauld sur la RTF en 1960 à propos de l'auteur de votre sérum littéraire, Benoît Forgeard, la poétesse Catherine Pozzi. Vous avez choisi l'un de ses poèmes paru en 1929 dans la NRF, Ave, qu'on peut lire aujourd'hui dans le recueil Très haut amour et autres textes. Un poème composé dans le train entre sa résidence de Vence à Paris en 1926, juste après sa rupture avec son amant Paul Valéry qu'elle aime encore follement. Je vous laisse nous parler de ce texte avant de nous...
Oui, bah écoutez... J'ai découvert Catherine Pozzi il y a quelques années, sans doute à travers YouTube, comme beaucoup de découvertes. C'était l'écrivain Gabriel Matzneff qui, tout à coup, l'a cité dans une émission. Et j'ai été immédiatement saisi par cette poésie. Parce qu'elle a des échos... déjà, c'est une poétesse... déjà, les poétesses sont rares, en tout cas. Elles sont rarement publiées, trop rarement. Et les poétesses d'amour aussi sont rares, en fait. C'est rare que les poétesses parlent d'amour assez bizarrement.
En Russie, un peu plus fréquent.
Alors, peut-être. Je connais pas la situation géopolitique et géopoétique de la Russie. Mais, en tout cas, j'étais saisi parce qu'il y a quelque chose à la fois de lyrique, mais aussi de cosmique, un peu de mystique, qui m'emporte assez vite. Je suis client pour ce genre de choses.
Elle dit cette phrase très jolie, « Je suis un des points singuliers par où la souffrance de la planète rayonne ».
Oui, il semble bien que les propos sur le bonheur d'Alain lui auraient rendu service.
Peut-être.
Si elle les avait connus, mais enfin, chacun son truc.
C'est vrai. Et alors, votre truc, Benoît Forgeard, c'est ce poème, on vous écoute. Vous avez vu cette transition épatante?
Oui. Non mais attendez, j'ai l'impression là...
Vous n'êtes pas prêt?
Si, je suis prêt, j'ai l'impression d'avoir été appelé au tableau pour lire mon poème, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé.
C'est
mais...
le cas?
Oui, alors j'y vais, je peux y aller?
Oui, allez-y.
Très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour. Quand je serai pour moi-même perdu, et divisé à l'abîme infini, infiniment quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi. Par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vanné, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, de mille corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, ô centre du mirage, très haut amour.
Qu'est-ce qui vous réconforte dans ce poème, Benoît Forgeard?
Alors déjà, je vous suis reconnaissant de ne pas passer une publicité immédiatement après. J'ai craint à un moment donné qu'on ait le droit à quelque chose. Je pense que vous ne passez pas de publicité sur votre antenne.
Si, parfois.
En même temps, si vous aviez passé une publicité après, ça aurait été ça, la vie aussi. Ça aurait pu être très beau, il y aurait pu
pour
y avoir
assurances.
Un truc. Ouais, sur les assurances, ça aurait pu être ça. Pourquoi pas, ça aurait été très
imposant
ton anonymat. Oui,
ouais.
Ouais, oui.
Qu'est-ce qui vous touche dans ce poème, Benoît Forgeard? Parce qu'on sent une grande mélancolie aussi, une intensité amoureuse. Quand elle a été dévastée par la rupture avec Paul Valéry...
Oui, c'est ça. Elle a été dévastée, mais bon, évidemment, il y a toujours un petit côté un petit peu géniard hein, dans la poésie. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est la moindre des choses, je dirais. Mais ce qu'elle en fait, elle arrive à en faire quelque chose de... Ce qui me touche, en fait, c'est qu'il y a un moment donné où je sens qu'elle a une intuition métaphysique que je partage. C'est celle de quelque chose d'univers parallèle, de vie multiple. Elle parle d'instants non rassemblés encore. Elle parle de l'univers aux mille corps brisés. Tout ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle est dans un état dans lequel on peut se mettre quelquefois, qui est un état quasiment de clairvoyance. Ça me touche beaucoup, oui.
Je crois qu'il y a un conte autobiographique, Agnès, où elle développe justement ce côté spirituel et cosmique dont vous parlez, Benoît Forgeard. Quand je parlais quand je parlais de la souffrance de Catherine Pozzi, il faut dire qu'elle se droguait après la rupture avec Valérie, qu'elle a eu la tuberculose à 30 ans, qu'elle a connu le deuil de deux de ses amis les plus proches. On le ressent dans son œuvre, ça, non?
Oui, probablement, c'est vrai. Enfin, on le ressent pas tant dans son œuvre que dans sa biographie. Là, je sais pas si on n'avait pas su de qui c'était, si on avait lu ce poème en aveugle, sans savoir d'où il venait, je sais pas si on aurait vu tout ce malheur.
Mais si on lisait la littérature en aveugle, toute l'histoire de la littérature changerait.
C'est possible, oui, comme plein de choses qu'on pourrait faire en aveugle, d'ailleurs.
C'est vrai. Dans un instant, on parlera d'île et de boisson. Le temps d'écouter un morceau de la playlist France Inter, Doing Time, Lana Del Rey.
Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
À la mélancolie sur France Inter dans l'officine de l'âme de Benoît Forgeard.
À vos santé, je bois. Bébon, avec plaisir, je vois. Bébon, qu'entre nous ces vins frais. Bébon, va cimenter la paix.
Extrait de l'opéra bouffe Croque-Faire d'Offenbach interprété par le quatuor gastronomique, le morceau Le Cépage, pour introduire l'activité qui vous met en joie, Benoît Forgeat, c'est boire. Alors, boire de l'alcool ou l'acte de boire?
Oui, non, c'est-à-dire que quand j'ai reçu le questionnaire pour votre émission et qu'il était question à un moment donné de dire une activité qui me met en joie, c'est vrai que pour être tout à fait sincère, j'ai pas pu ne pas parler de boire. Et quand je parle de boire, bien sûr, c'est pas boire du petit lait, c'est boire de l'alcool.
L'ivresse.
Oui, l'ivresse, parce que alors je sais pas si vos invités répondent ça fréquemment, mais enfin, ça me semble évidemment un des remèdes à la mélancolie les plus efficaces. Je veux pas ici sur l'antenne de Radio France faire la publicité de l'alcool.
Non, il faut encourager les auditeurs à se modérer évidemment, et puis rappeler qu'il a aussi un effet dépresseur.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Hein.
Évidemment, c'est là que vous vouliez en venir.
Oui, voilà.
Vous vouliez en venir.
Je ne fais pas partie maintenant d'une ligue anti-alcool, mais presque. En tout cas, je sais à quel point ça a pu être un faux ami aussi parfois. Mais c'est vrai que spontanément, c'est quelque chose qui a pu m'aider parfois. Mais aujourd'hui, alors je bois moins.
L'alcool ne console de rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. C'est Marguerite Duras dans La vie matérielle.
Oui. Je crois qu'elle avait dit ça d'ailleurs quand elle était sous boisson. Hein. Je me rappelle bien, non ?
Je n'étais pas là, mais
je ne sais pas. Mais non, c'est vrai que, par exemple, maintenant, je bois moins. Je sais que je travaille mieux quand même. Hein.
Oui.
Ouais.
C'est ce que beaucoup d'artistes disent.
Bah oui, c'est vrai. Enfin, alors ceux qui disent le contraire, je ne sais pas si. Enfin, ceux qui vivent le contraire, je ne sais pas s'ils ont la possibilité de venir le dire à la radio. Non, c'est vrai, bien sûr. On ne peut pas, je pense, espérer faire quelque chose de très consistant si on boit trop et trop souvent.
Benoît Fangin, j'avais prévenu les auditeurs qu'il y aurait des transitions absurdes dans cette émission. Et là, on va passer aux longitudes et aux latitudes qui vous consolent. Et l'un de vos remèdes, c'est de regarder la course cycliste Milan-San Remo, créée en 1907 par Costa Magnale, directeur de la Gazzetta dello Sport. Vous la regardez à la télévision ou vous y avez déjà assisté ?
Oh non, je regarde à la télévision comme beaucoup de choses. D'ailleurs, enfin, moi maintenant, mais comme beaucoup de choses dans ma vie, je les ai découvertes à la télévision. Et c'est par la télévision que je connais le monde en général.
Mais vous dites que ça vous a formé la télévision,
ouais, tout à
autant
fait.
Que le cinéma populaire.
Bah plus, parce qu'en fait le cinéma, beaucoup de films je les ai vus à la télévision. On allait un petit peu au cinéma, mais pas beaucoup. Mais la télévision surtout, j'avais la chance que mes parents étaient très permissifs, me laissaient regarder un peu n'importe quoi, et donc je regardais tout. Et sans trop de jugement critique. Donc j'en garde un très bon souvenir.
Et cette course alors, Benoît
Fangin ? La course Milan-San Remo, elle se passe au printemps. Son surnom, c'est la Primavera.
Elle commence en hiver et se termine au printemps.
Non, c'est une course d'un jour. C'est une course d'un jour.
Oui, mais c'est le troisième dimanche du mois de mars, donc ça commence vraiment.
Ah oui, pardon.
On est en hiver et puis en quelques jours, on est au printemps.
C'est ça, c'est un peu aussi quelque chose qui est lié aux saisons. C'est la course qui nous indique que les beaux jours sont de retour bientôt. Et c'est une course qui traverse le nord de l'Italie, donc de Milan à San Remo, hein, comme l'indique son nom. Et oui, je la regarde avec beaucoup de plaisir. Je regarde pas seulement la course, c'est-à-dire que je m'intéresse pas seulement aux coureurs, je regarde le paysage. Et les courses italiennes en général, c'est assez beau. À l'autre bout de l'année, en octobre, il y a le Tour de Lombardie qui est la classique des feuilles mortes et qui nous indique que le temps est bientôt terminé de paraisser au soleil.
Ce sont des courses météorologiques et temporelles.
Ouais, enfin le cyclisme, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, en général est lié à ça. Enfin, le Tour de France nous indique que c'est l'été, ce genre de choses.
Nous sommes rapprochés de la mer par San Remo, traversons-la pour atteindre vos endroits refuges, Benoît Fangin. Les îles, vous en avez indiqué quatre. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous attire dans l'idée d'une île, vous qui avez fait un court-métrage intitulé « Belle île en mer » avec un presque sosie d'Alain Souchon ?
Alors, ce qui m'attire, c'est, vous savez, je suis pas misanthrope, mais enfin, je ne cours pas après les foules. Donc l'île, la plupart du temps, enfin sauf certains étés sur certaines îles, c'est un bon moyen d'être assez tranquille.
Alors d'abord, le golfe de Gascogne, Oléron. C'est la proximité avec le Fort Boyard qui vous attire, Benoît Fangin ?
Oui, c'est plutôt à hauteur des Charentes-Maritimes. Et ouais, là, j'y allais quand j'étais gamin, l'île d'Oléron. J'y suis retourné un petit peu plus tard. Alors on y va par il y avait un pont à l'époque, c'était un des premiers. Et puis oui, c'est toujours un petit peu l'aventure aussi, l'île. Hein. Bon, c'est l'aventure pour des gens comme moi qui ne sont pas des aventuriers.
D'accord. Alors on reste dans le même golfe, mais on passe de la Charente-Maritime à la Vendée. Noirmoutier, qui a inspiré plusieurs cinéastes, dont Bresson et Sautet.
Oui, c'est vrai. Et bien Varda, on pourrait l'ajouter.
Oui, qui avait un moulin là-bas avec Jacques Demy.
Oui, Noirmoutier, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est d'autres choses, mais disons que c'est des souvenirs de Robinsonade, on peut dire ça comme ça, à mon échelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'y vivre tout d'un coup des aventures où je suis loin du monde. Bon, après, je rentre chez moi, c'était deux heures pour Paris. mais oui, il y a quelque chose dans les îles qui m'inspire beaucoup. Alors si en plus il y a à boire et qu'il y a du cyclisme,
oui.
Et un bon livre de Catherine Pozzi avec le nouveau de Rudy Rosenberg, bon bah là, je suis très inspiré.
Le paradis.
Voilà.
Autre île cinématographique.
Accueillante, non, l'île ne l'est pas au premier abord. Pas de port pour les paquebots, ses côtes la défendent. Comme aux îles Marquises ou dans les atolls de Polynésie hérissés de corail, on transborde au large sur les chaloupes des stromboliens. Le touriste n'y voit peut-être que du pittoresque, une petite aventure qu'il racontera avec complaisance. Mais si le Stromboli n'accueille que les chaloupes et les voiliers, s'il tient à distance les steamers, ses concurrents au feu domestiqué, c'est un peu comme s'il s'en méfiait, comme s'il redoutait qu'il ne lui enlève plus qu'il ne lui apporte.
Il nous reste quelques secondes pour évoquer l'île de Stromboli. Là, on entend un documentaire de 1962 sur la RTS. Stromboli qui fait partie des îles éoliennes et la petite île anglo-normande de Sark.
Ouais, bon, Stromboli est plus connu avec son volcan, mais Sark, je le recommande vraiment à tout le monde. C'est beaucoup moins connu, plus mystérieux. C'est très, très près d'ici. Il faut aller à Saint-Malo. Enfin, je veux pas non plus dire à tout le monde de débarquer d'un coup. Mais en tout cas, c'est une île qui a ce charme d'être encore une île féodale avec un seigneur. Donc là, on a vraiment l'impression d'aller dans un autre monde.
Merci beaucoup, Benoît Forgeard, d'être venu dans cette émission.
Pardon. Si j'ai pu aider à soigner la mélancolie de vos auditeurs, j'en suis heureux.
Eh bien, eux aussi. Votre troisième long métrage, Yves, sort en salle mercredi prochain.
Et c'est un hasard total, hein ?
Oui, évidemment. Et l'on retrouve votre chronique Dérive des continents chaque vendredi soir dans l'émission 28 minutes sur Arte, la saison prochaine aussi.
Oui.
Vos critiques d'anticipation pour le magazine SoFilm ont été rassemblées dans un recueil en 2016. C'est l'année du cinéma 2027 aux éditions Capricci. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi guilleret qu'un albatros fraîchement diplômé. C'était la dernière émission de la saison, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver de nouveau chaque dimanche. À la rentrée, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.